Bonsoir, la MONUC annonce avoir rapatrié au Rwanda depuis le mois de janvier dernier une centaine de combattants rwandais recrutés par Laurent Kunda. Cette information livrée la semaine dernière par la porte-parole de la MONUC au Nord Kivu constitue le thème de dialogue en congolais de ce soir. Sur quel fait la MONUC se base-t-elle pour donner cette information? Quelle analyse faire de cette situation sur le plan diplomatique et sécuritaire? C'est à toutes ces questions que nos invités vont tenter de répondre. Nous recevons à ce sujet Peter Schwabreck, chef de la division DDRRR de la MONUC, Amoli Kabaruza, coordonnateur national du comité national de la conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des pays de Grand Lac. Il représente le gouvernement congolais dans cette structure internationale. Jacques Ebenga, colonel à la retraite et analyste des questions militaires. Bonsoir à vous, chers invités.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, première réaction des auditeurs. Mastaki, Abeni, dans le Nord Kivu, pense que Laurent Kunda se conduit comme celui qui a conquis le Nord Kivu. Michel Lukoji de Lubumbashi au Katanga, pour lui, la MONUC rapatrie 100 combattants rwandais. Laurent Kunda en recrute 1000. La solution, c'est mater Laurent Kunda par la force. La province orientale, donc, voudrait connaître, un autre auditeur de la province orientale voudrait connaître la réaction du gouvernement et quelles dispositions prises par la MONUC pour le retour de la paix dans les deux Kivus.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
D'après la porte-parole de la MONUC au Nord Kivu, Sylvie Vanden Wildenberg, citée par une dépêche de l'agence France Presse publiée mercredi dernier, la MONUC a rapatrié au Rwanda notamment une centaine de combattants rwandais qui avaient été recrutés par le général Laurent Kunda. D'après la même source, le général Laurent Kunda aurait effectué ce recrutement dans différentes préfectures du Rwanda depuis le début de cette année avec la promesse d'avoir un emploi civil en République démocratique du Congo. Au quartier général de la MONUC à Kinshasa, le porte-parole de la mission onusienne confirme cette information. Kemal Saiki dit s'appuyer sur des témoignages de ses rapatriés rwandais. Le porte-parole de la MONUC ajoute que c'est aux autorités congolaises de prendre langue avec les pays voisins de la RDC pour régler cette question. On écoute Kemal Saiki au micro de Claude Kanda.
Ce qui se passe, c'est que notre section qui s'occupe de la démobilisation du rapatriement des combattants étrangers présents sur le sol congolais a constaté que parmi ceux qui étaient rapatriés ou qui s'étaient présentés pour être rapatriés, non seulement il y avait les groupes habituels que l'on a eu à faire face depuis ces quelques années, qui sont les DLR, il y avait aussi un certain nombre de personnes qui disaient avoir été recrutées récemment par le général dissident Kunda pour être intégrées dans ses forces. Et c'est une situation dont nous avons connaissance et effectivement le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle contribue à accroître l'instabilité que malheureusement on constate depuis quelques temps dans cette partie de la RDC.
Et quelles sont les mesures concrètes que prendra la MONUC pour arrêter ce recrutement de ce combattant rwandais par Laurent Kunda?
Écoutez, les informations que nous avons ainsi que les témoignages recueillis auprès de ces personnes-là font état de recrutements qui ont lieu en dehors des frontières de la RDC. Donc nous avons là de toute évidence un problème transfrontalier qui implique d'autres pays que la RDC. C'est un problème que vous pourrez qualifier de soit de bilatéral, soit de multilatéral. Et il est du ressort des autorités congolaises de prendre langue avec les pays où de telles activités se déroulent afin de regarder ensemble de quelle manière elles peuvent y mettre fin.
Est-ce que par la déclaration de la MONUC, on peut dire que la MONUC dénonce cette situation de recrutement des combattants par Laurent Kunda?
Écoutez, je ne pourrais pas dénoncer parce que la position officielle de la mission là-dessus doit être arrêtée. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que nous constatons ces recrutements qui sont faits à l'étranger. Ce que nous avons dénoncé là de manière très vigoureuse, c'est des recrutements d'enfants qui se poursuivent. tant sur le territoire de la DRC qu'en dehors. Et ça, c'est sur la base de témoignages que nous avons recueillis. La plupart des personnes qui sont venues se présenter pour être rapatriées ont affirmé avoir été recrutées par l'ex-général Kunda.
C'était là Kemal Faiki, porte-parole de la MONUC. Nous avons dans ce studio Peter Schwabeck, je vous l'ai dit, il est chef de la division DDRRR de la MONUC, donc désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion. Monsieur Peter Schwabeck, sur quels faits se base la MONUC pour donner une telle information?
Alors, juste pour expliquer un peu le fond, ce que fait ma division, c'est de, comme vous avez dit, de rapatrier les groupes armés, les combattants étrangers qui se trouvent actuellement sur le territoire congolais. Et depuis le début, on a rapatrié quelques 15 000 personnes, pas juste les combattants, mais aussi leurs dépendants, leurs femmes et leurs enfants à leur pays d'origine. Donc, comme vous avez dit, depuis janvier, on constate de plus en plus que les personnes, les combattants qu'on rapatrie vers le Rwanda ne sont pas les membres des FDLR comme ils ont été d'habitude. Ils ont aussi quelques personnes, une centaine de personnes qui disent avoir été recrutées tout récemment au Rwanda, très souvent avec la promesse d'un emploi civil, et il se trouve dans les forces de Laurent Kunda, le moment qu'ils peuvent, ils désertent, ils s'appliquent à la division DDR, à la MONUC, pour être rapatriés. On les rapatrie parce qu'ils sont des Rwandais, des combattants, et ils veulent rentrer chez eux, qui sont nos trois conditions dans cette approche volontaire qu'on a.
Est-ce que le simple témoignage de ces rapatriés suffit pour prouver qu'ils ont été recrutés au Rwanda par Laurent Kunda?
Nous n'avons aucune raison de le douter, mais en même temps, je présume que c'est quelque chose que le gouvernement rwandais aurait voulu enquêter, parce que depuis, je crois, 2005, il y a un accord de bon voisinage entre d'autres, le gouvernement RDC, le gouvernement rwandais, ougandais et burundais. Et c'est quelque chose que, alors, si c'est question que, alors, les citoyens d'un État sont en recrutés pour prendre part dans un conflit dans un autre État, alors c'est quelque chose qui doit être enquêté sur la base de, alors, est-ce que c'est vraiment le bon voisinage? Et comme l'a dit Kemal Saki, je crois que le gouvernement congolais est en droit de demander à son voisin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais que cette question a déjà été soulevée par Mme Kumaraswamy, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour les enfants dans le conflit. Je ne sais même pas s'il est satisfait par la réponse officielle rwandaise, mais je crois que cette question est toujours en cours.
Oui, on va revenir à vous parce que vous êtes dans ce studio. Nous avons tenté en vain d'avoir une réaction du gouvernement de la RDC, mais nous avons aussi dans ce studio Baudouin Amouli Kabaruza, coordonnateur national du comité national de la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs. Baudouin Amouli, vous représentez quand même le gouvernement congolais dans cette structure internationale de la région des Grands Lacs. Votre réaction, Baudouin Amouli?
Bon, merci pour la question. La première chose, c'est que, en effet, puisque les faits ont été constatés par la MONUC, qui est la structure des Nations Unies pour le Congo, nous n'avons pas de doute en ce qui concerne la véracité des faits. C'est le travail de la MONUC de pouvoir aider à rapatrier les anciens, comme les ex-combattants rwandais qui sont sur notre territoire, de les mettre entre les mains des autorités rwandaises, et les autorités rwandaises ont la responsabilité d'encadrer ces gens, de les réinsérer dans leur société et de s'assurer que ces personnes ne rentrent plus au Congo. Donc, nous remercions la MONUC pour ce travail qui a été fait. Ceci dit, en effet, la RDC ne peut que condamner ce genre de faits, étant donné que ces faits pratiquement violent un certain nombre de dispositions et d'accords que nous avons signé récemment avec le Rwanda.
Vous ne l'avez pas fait, le gouvernement non plus.
Ceci dit, nous avons l'information. L'information sera portée à l'attention du gouvernement. Le gouvernement prendra les mesures à cet effet. Il y a des structures qui ont été mises en place pour pouvoir débattre avec le Rwanda de ces questions.
Dans le cadre de la conférence, c'est ça?
Il y a la tripartite plus, qui a le soutien du gouvernement américain, dont le rôle est de renforcer la confiance entre la République rwandaise, la RDC, l'Ouganda et le Burundi. Et donc le problème va être porté dans cette institution.
Quand
le gouvernement jugera, n'est-ce pas, il y a une réunion qui est prévue de cette institution ici à Kinshasa. Donc nous pouvons tout à fait clairement porter ce problème, et je peux vous assurer que c'est un problème qui sera porté à la prochaine réunion de cette institution.
En attendant justement la réaction du gouvernement Baudouin-Mouly, est-ce que la structure que vous dirigez en tant que coordonnateur national, est-ce que déjà là il va agir là?
Oui, je suis saisi en tant que comité préparatoire national, en tant que coordonnateur national. J'ai pris acte de ce fait. Je dois dire clairement que ceci est en contradiction avec le pacte que nous venons de signer. Dans le chapitre 2, du pacte, notamment l'article 5, il est dit clairement que les États membres s'engagent à maintenir la paix et la sécurité conformément au protocole sur la non-agression, la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs, et en particulier à s'abstenir d'envoyer ou de soutenir des oppositions armées ou des groupes armés ou des rebelles sur le territoire de notre pays, de notre État membre, ou de tolérer sur le territoire des groupes armés ou des rebelles engagés dans les conflits armés et impliqués dans les actes de violence ou de subversion contre le gouvernement de notre État.
Donc le pacte a été violé par qui?
Si en effet les faits sont clairement établis, et nous n'avons pas de doute qu'ils sont établis, en effet ceci est une contradiction flagrante par rapport au pacte ici, et nous devons porter cette question au gouvernement rwandais de manière à ce que le gouvernement rwandais prenne ses responsabilités.
Oui, Jacques Ebenga, réaction.
Je réagirai à plusieurs niveaux. D'abord, je suis tout à fait sidéré de voir que ce soit plutôt la MONUC qui vienne ramener les citoyens étrangers à la frontière. C'est comme pour dire que nos services de renseignement extérieurs et intérieurs n'ont pas vu passer ces citoyens en nombre si important. C'est dire également que les services de SMI, donc la structure militaire d'intégration, qui avait commencé l'opération de mixage, probablement avec les jeunes gens, parce qu'on a dénombré un certain nombre d'enfants dedans, pourquoi n'a-t-on pas dénombré les étrangers? Et que ce soit la MONUC qui vienne récolter, en fait, ils se sont rendus d'eux-mêmes à la MONUC, parce qu'on les a défaits jusque-là. Donc, je suis un peu étonné de voir que nos services de l'armée et de renseignement n'ont pas été à la hauteur pour découvrir ces étrangers dans nos forces armées et même à leur entrée dans notre pays. Cela dit, il y a donc là un problème. Il y a un problème. Le deuxième problème que je soulève, c'est celui lié à ce que vient de dire mon ami Baudouin sur le pacte qui nous lie, le pacte de sécurité et de stabilité. Mais ma lecture est différente de ce pacte. Quand je lis ce pacte, je l'ai sous mes yeux, j'ai l'impression qu'il y a comme une fissure par laquelle, je crois, il serait difficile d'arriver à reprocher au Rwanda quoi que ce soit. Pour quelle raison? Il est dit dans ce pacte qu'on ne peut pas, un pays voisin ne peut pas organiser des forces agressives à un autre voisin. Mais dans le cas d'espèce, le Rwanda peut brandir un arrangement qui existerait entre RDC et le Rwanda et M. Kunda Batory, qui permettrait à celui-ci d'avoir une armée, éventuellement. Alors, la question, c'est, nous ne connaissons pas la teneur de tel arrangement. C'est pour dire que nous les considérons comme des mercenaires, à la rigueur, qui viendraient épauler une force locale.
Si là, vous parlez donc des rapatriés.
Des rapatriés, oui, ce sont les mercenaires. Mais dans le texte que j'ai sous les yeux, qui est de l'institution de M. Amouly, je ne vois nulle part mention de mercenaires. Je l'ai également. Je ne vois nulle part parler de mercenaires. On parle de groupes étrangers, d'organisations de forces étrangères qui seraient hostiles à un pays donné.
Mais c'est important que cela soit mentionné.
ça aurait dû peut-être, enfin, ils n'ont peut-être pas eu cette, ce cas de figure à l'époque, mais en cas, c'est un cas de figure. Ces gens ne sont pas venus pour agresser le pays. Ils seraient venus avec un certain consentement du pays parce que le pays aurait signé un accord avec certains Congolais, ou en tout cas le gouvernement congolais, puisque M. Koudewatore s'est prévaut d'un arrangement entre le Congo et le Rwanda. Il se peut que ce soit dans ce cadre-là que ces gens aient trouvé une fissure pour venir au Congo. Donc tout cela, c'est une matière à débattre. Et je crois qu'il faudra clarifier dans les jours prochains.
Merci, Dr. Jacques Ebenga. En Nord Kivu, pendant ce temps, pas de réaction non plus du gouvernement provincial ni de l'Assemblée provinciale, mais la société civile demande au gouvernement central de réagir. On écoute Jason Luneno, président de la société civile du Nord Kivu. Il est au téléphone de Nadine Foula.
La société civile du Nord Kivu a suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration de la MONUC, qui s'est dit avoir rapatrié des éléments rwandais qui avaient été recrutés par Laurent Kunda. Et à notre niveau, nous avons compris directement que la question qui avait été longtemps été traitée par la société civile et qui avait été négligée par la MONUC auparavant, lorsque nous avons dénoncé les infiltrations des troupes étrangères, aujourd'hui cette question est confirmée maintenant. Et à partir du moment où elle est confirmée par une communauté internationale, parce que la MONUC représente la communauté internationale, nous pensons que diplomatiquement, notre gouvernement doit prendre les dispositions pour demander à la communauté internationale de prendre des dispositions vis-à-vis de ces recrutements de troupes étrangères pour déstabiliser notre pays. Et nous avons suivi M. Laurent Kunda, qui a dit ne pas reconnaître ces troupes-là, mais les troupes se sont fait inscrire. La MONUC est à la liste de tous ces miliciens qui ont été rapatriés. Donc nous pensons que notre pays doit tout faire pour que ces gens qui ont été utilisés sur notre territoire, celui qui les a utilisés, notre gouvernement puisse mener des actions diplomatiques par rapport à ça, afin d'utiliser le Rwanda comme ils l'ont fait dans la facilitation vis-à-vis de la position de la communauté internationale et de faire voir que le Rwanda est toujours présent sur notre territoire national. Mais maintenant, par rapport aux questions de sécurité, nous pensons que nous sommes toujours en difficulté par rapport à cette question parce que nous avons toujours dénoncé nos fonds qui sont vraiment ouvertes. La gestion de nos frontières avec le Rwanda ne sont pas vraiment bien surveillées. Nous pensons que le gouvernement congolais devrait maintenant prendre des dispositions.
Oui, Baudouin Amouli, je rappelle que vous êtes coordonnateur national du Comité national de la Conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs. Est-ce que vous avez une réponse en rapport avec ce que le souhait du président de la société civile du Nord Kivu?
Merci. Je félicite d'abord Jason, président de la société civile du Nord Kivu. Je crois que, en effet, la société civile au Kivu a été très vigilante par rapport à ces questions depuis très longtemps et ils n'ont pas arrêté d'évoquer des faits qui souvent ont été prises pour des allégations. Cette fois-ci, en effet, la MONUC ayant constaté les faits, ceci nous aide à avancer et cela nous aidera certainement à avancer. La première chose, c'est que je dois rappeler que dans le cadre de la conférence internationale du Grand Lac, les chefs d'État avaient adopté ce qu'on appelle la déclaration des Darslam. Dans la déclaration des Darslam, il est stipulé au paragraphe 23 très clairement que les États s'engagent, les chefs d'État se sont engagés à assurer la sécurité aux frontières communes dans le cadre d'une stratégie de gestion de proximité des questions transfrontalières en consultation avec les populations des zones frontalières.
Apparemment, c'est pas fait.
Donc, nous avons ici des cadres. Comment est-ce qu'on peut formuler encore mieux les choses? On s'est engagé tous ensemble, le Rwanda, la RDC et tous les autres États qui font partie de la conférence des Grands Lacs, nous nous sommes engagés, les chefs d'État ont signé. Ce que nous devons faire, c'est d'interpeller les autorités aux frontières assez rapidement. Je pense qu'il appartient au gouvernement rwandais, dès qu'il reçoit l'information que nous avons ici, soit par la voie des médias ou par la voie directe, diplomatique directe, il appartient au gouvernement rwandais de vérifier ce fait sur les frontières, de vérifier en effet si effectivement les gens que le gouvernement rwandais nous demande de neutraliser sur notre territoire, que ces gens-là ne sont pas en train d'être recrutés par d'autres forces. Je suis d'accord avec colonel Ebenga quand il dit effectivement que, bon, le gouvernement rwandais peut toujours faire prévaloir d'autres arguments sur cette question, mais s'agissant particulièrement des forces négatives qui sont traquées sur notre territoire, arrêtées et rapatriées au Rwanda,
s'agissant de ces forces-là, la responsabilité du gouvernement rwandais de veiller avec, à ce que ces forces-là ne retournent plus au Congo, eh bien, c'est une grande obligation, parce que nous ne savons pas continuer ces efforts-là si le gouvernement rwandais ne maîtrise pas ces éléments qui retournent sur son territoire.
Mais c'est au Congo aussi de veiller à ce qu'ils n'entrent pas par la frontière congolaise.
Nous, c'est un travail à faire ensemble au niveau des frontières, c'est évident.
Merci,
Mais c'est également une responsabilité du Rwanda.
Merci, Baudouin Mouli. Des auditeurs qui nous suivent réagissent. Depuis le Katanga, Michel Lukoji de Lubumbashi, pour lui, la MONUC rapatrie 100 Hutu, donc combattants rwandais. Kunda en recrute 1000. La solution pour lui, c'est masser Laurent Kunda par la force. Réaction, Peter Chabrec, chef de la division des RRR de la MONUC.
Oui, pour la MONUC et pour le Conseil de sécurité, la chose la plus importante, peut-être suite aux élections de l'année dernière, c'est que le gouvernement et les forces armées congolaises et tout le pouvoir de l'État s'étend sur tout le territoire congolais pour que le gouvernement contrôle et étend son autorité et sa légitimité partout dans le Congo. Évidemment, à l'est, au Kivu, on a cette force groupe armée étranger. Donc c'est pour le gouvernement, primairement, de trouver une solution, y compris avec la force armée si nécessaire. C'est leur droit, c'est leur obligation pour que les forces armées congolaises, comme celles de tout autre pays, aient le droit de protéger leur population civile pour défendre leurs frontières internationales et pour sauvegarder leurs ressources naturelles.
Oui, mais
c'est très important. Oui. Donc, oui, la MONUC a un mandat du Conseil de sécurité de supporter, de soutenir quelques opérations des FRDC à ce sens. C'est maintenant. En parallèle avec cela, la division des D3R a depuis 5 ans maintenant le mandat de rapatrier les groupes armés, les combattants armés étrangers de façon volontaire.
Et c'est ce que vous avez fait.
En affaire. Donc il y a les deux pistes en parallèle.
Et c'est ce que vous avez fait.
Oui.
Mais c'est combien exactement de combattants qui auraient été recrutés ou qui ont été recrutés par Laurent Kunda que vous avez rapatrié au total?
Au total, c'est la centaine que vous venez de parler. C'est depuis janvier qu'on le remarque, qu'on le constate. Les chiffres que vous avez donnés sont les bonnes. Hein. C'est-à-dire depuis janvier, environ 200 combattants rwandais, dont près d'une centaine ont été recrutés par le général déchu Tutsi congolais, etc. Laurent Kunda. Alors, ils ont été recrutés d'après leur dire, avant d'être rapatriés, on les interviewe, ils nous expliquent qui ils sont, depuis quand ils sont au Congo, de quelle façon ils sont entrés. Et ce qu'ils ont dit dans leur interview, comme je l'ai dit, on ne peut pas vérifier, on n'a aucune raison pour le douter, c'est pour ça qu'il faut peut-être que les autorités rwandaises montent une enquête là-dessus.
Mais est-ce que la MONUC s'arrête aux rapatriés, ou bien vous allez aussi mener des enquêtes au niveau des éléments dont dispose encore Laurent Kunda sur terrain?
Pour la division des D3R et l'approche volontaire que nous suivons, au fur et à mesure que d'autres combattants rwandais nous approchent, évidemment, on va faire de même, on va les interviewer pour établir qui ils sont et pour quelles raisons ils sont venus, etc. Quelques-uns seraient des FDLR qui sont là depuis 94, peut-être, et quelques-uns apparemment seront ceux qui disent avoir été recrutés pour se battre avec Nkunda.
Merci, Peter Schwabrek. Pour d'autres auditeurs qui veulent réagir, nous parlons ce soir d'un dialogue entre Congolais de la MONUC qui annonce avoir rapatrié au Rwanda depuis le mois de janvier dernier une centaine de combattants rwandais recrutés par Laurent Kunda. Sur quel fait la MONUC se base-t-elle pour donner cette information? Quelle analyse faire de cette situation sur le plan diplomatique et sécuritaire? C'est justement ce dernier volet que nous allons aborder tout à l'heure avec nos invités, Peter Chabrec, chef de la division DD3R de la MONUC, Amouli Kabarouza, coordonnateur national pour la conférence internationale des pays de Grand Lac, Jacques Ebenga, colonel à la retraite et analyste de questions militaires.
Voilà, on va poursuivre avec cette deuxième partie. Quelle analyse faire de la situation sur le plan diplomatique et sécuritaire à Mouli Kabarouza? J'ai déjà rappelé votre titre, coordonnateur du Comité national de la Conférence internationale des pays de Grand Lac. Comment vous analysez la situation sécuritaire dans cette région des deux Kivu et même la région des Grands Lacs avec la nouvelle donne, le recrutement par Laurent Kunda des combattants au niveau de Kigali au Rwanda?
Bon, il est évident que dans l'ensemble des débats sur la sécurité au niveau de la région des Grands Lacs, la fragilité de l'est de la RDC ressort assez régulièrement. Et un certain nombre d'actions ont déjà été proposées, notamment toutes ces actions que mène la MONUC en appui à l'armée de la RDC avaient été entamées déjà de manière à pouvoir accélérer le processus de neutralisation des éléments des éléments rwandais qui ont été responsables des catastrophes au Rwanda. Bon, d'autres actions ont été envisagées dans le cadre de la conférence des Grands Lacs. Notamment, il y a un certain nombre de projets que la conférence internationale des Grands Lacs a adoptés, qui sont dans le pacte, qui doivent être déployés en appui à tous les efforts qui se font dans la région.
Et qui n'ont toujours pas encore commencé, Bodéamouli.
En effet, ça n'a pas encore commencé parce que le pacte a d'abord besoin d'être ratifié avant sa mise en œuvre et aussi l'ensemble des instruments institutionnels et financiers doivent être mis en place. Nous venons simplement de terminer la signature du pacte il y a quelques mois, donc nous sommes en train de mettre en place les institutions, n'est-ce pas, mettre en place le secrétariat de la conférence qui vient d'être mis en place. Madame la secrétaire est en train, Madame l'ambassadeur Moula est en train de recruter le personnel en ce moment et nous pensons pouvoir démarrer assez rapidement d'ici le mois de juillet.
Mais comment vous allez démarrer tous ces projets au niveau de la conférence des pays des Grands Lacs avec la RDC qui a notamment cette question de Laurent Kunda entre autres? Comment vous allez démarrer les projets dans ce contexte?
Les chefs d'État ont décidé de travailler ensemble. La conférence des Grands Lacs n'est pas simplement un petit mécanisme, c'est un mécanisme de 11 États de la région. Donc ici, il y a une conjonction de forces, une conjonction d'énergie qui va être faite de manière à ce que, de manière solidaire, on mette un terme à ce problème de sécurité à l'est de la RDC. Donc ceci dit, le gouvernement de la RDC, vu l'acuité du problème à l'heure actuelle, peut décider de pouvoir chercher du soutien complémentaire aux efforts qui sont menés. Et donc, ça, c'est la responsabilité du gouvernement actuel. Étant donné que son dispositif actuel ne permet pas de mettre un terme à ces problèmes, le gouvernement peut décider de renforcer les efforts par l'appui d'autres partenaires.
Merci, Baudouin Moulin.
Là, le Premier ministre doit pouvoir s'engager.
Voilà. Docteur Jacques Ebenga, votre analyse de la situation sécuritaire sur terrain avec la nouvelle donne?
Bon, d'abord, je commencerai par dire qu'il ne faut pas trop charger la MONUC de ce qui ne lui est pas, ce qui n'est pas de ses attributions. Il n'appartient pas à la MONUC de sauver la frontière. Il n'appartient pas à la MONUC d'aller vérifier dans les phares d'essai, unités mixées des phares d'essai, si les étrangers ou des enfants. Il appartient au gouvernement congolais de le faire. Et la MONUC n'a eu qu'à recevoir les gens qui sont présentés volontairement à elle. Donc si ces jeunes gens ne l'avaient pas fait, ils seraient toujours dans les forces armées. Donc c'est pour dire que dans le système de mixage qui est en vigueur, et je dirais même dans le système de brassage, il y a comme un laxisme qui consiste à ne pas regarder ni l'âge des gens, ni leur nationalité. Ce qui fait qu'on retrouve pour l'âge, bon, on a fait un effort parce qu'on a quand même élagué les jeunes gens qui étaient dans ce groupe, dans ces brigades mixées, mais pour ce qui est de la nationalité, ça n'a pas été fait.
Là, vous voulez parler encore du problème de l'identification?
L'identification, c'est une phase importante dans le processus de brassage. Ça n'a pas été fait, donc on a eu affaire à des étrangers et à des enfants dans les unités mixées. Voilà ce qu'il y a du côté du volet militaire. Du volet sécuritaire, je l'ai déjà dit, il faut que les services de renseignement, les services d'immigration fassent leur travail. Sinon, alors, il ne faut pas qu'on croie que la MONUC va se positionner sur la zone des frontières pour empêcher les étrangers de venir travailler au Congo ou dans nos armées ou dans la vie civile, comme certains voulaient le faire. Donc, c'est à nous à prendre nos responsabilités. Et je suis heureux, M. Amour parle des responsabilités du gouvernement. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. La MONUC n'a fait que nous aider. Si elle n'avait pas fait, ben, on n'aurait jamais dû reconnu ce problème.
Est-ce que vous pensez que la présence de ces Rwandais combattants signalés dans les rangs de Kunda peut affecter encore la situation sécuritaire sur le terrain?
Ben, certainement, dans la mesure où M. Kunda est quelqu'un qu'on gère mal, avec qui on a passé quelques accords dont on ne connaît pas la teneur exacte, et que par moments il fait des coups de tête où il dénonce ses accords, il dit qu'il retire ses hommes de l'armée, mais s'il les retire, c'est pour en faire quoi? Bon, alors là, ça nous pose des questions. Si c'est pour faire une autre rébellion, il faut bien qu'on le gère, qu'on le contrôle. Il ne faut pas qu'il continue à grossir son armée avec des étrangers éventuellement pour nous surprendre un jour.
Merci Jacques Ebenga. Peter Schwabeck, je rappelle que vous êtes chef de la division DD3R de la MONUC. Il y a un auditeur, Roger Mukalenga à Kananga dans le Kasai occidental, qui dit, je cite, « Pour prouver que la MONUC est là pour le peuple congolais, qu'elle est une force internationale, qu'elle donne la solution à ce problème face à Laurent Kunda. » Est-ce que vous avez une réponse pour cet auditeur?
Comme l'a dit le colonel Ebenga, c'est bien tout d'abord pour les forces armées congolaises et le gouvernement congolais de confronter ce problème. Évidemment, comme tout gouvernement, le gouvernement congolais a le droit de demander une aide bilatérale à d'autres pays, à d'autres gouvernements amicaux. Évidemment, tout le monde sait que jusqu'à maintenant, il y a pas mal de membres de la communauté internationale ont donné une contribution au brassage, par exemple, au processus de DDR du gouvernement et de l'armée congolaise. Ça peut et doit continuer. Il s'agit d'un long chemin à parcourir, évidemment. C'est pas quelque chose qui pourrait être fait dans un mois ou dans une année. Mais je crois qu'on a déjà entamé le processus, la communauté internationale est engagée, donc c'est pour le gouvernement d'exercer son leadership, comme l'a dit M. Amouli aussi, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités d'un gouvernement élu légitime. Ce gouvernement, je dois dire, a tout la bonne volonté du monde.
Ok. Ouais, donc,
il ne faut que demander de l'assistance.
Et donc, il a plus de chances de l'avoir, si je vous comprends bien.
Je crois bien, oui. Il y a un bon track record de la part de la communauté internationale en assistance au gouvernement.
Oui, mais Peter Schwabeck, c'est quand même votre division DD3R qui a révélé la présence des combattants rwandais recrutés au Rwanda par Laurent Kunda. Mais est-ce que vous avez, donc la MONUC, est-ce que vous avez saisi les autorités congolaises et autorités rwandaises sur cette question?
Autorités congolaises, oui. Pour ce qui est des autorités rwandaises, je sais qu'informellement, ils sont bien conscients de ce que nous avons trouvé. Mais je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est pour le gouvernement congolais de demander de son homologue rwandais, sur la base de cet accord de bon voisinage, qu'est-ce qui se passe. Et les autres instances aussi de l'ONU, comme par exemple Mme Kumaraswamy, le représentant spécial pour les enfants en conflit, elle aussi a soulevé cette question pour ce qui est des enfants qui sont censés se trouver dans les rangs de Nkunda.
Oui, mais est-ce que la MONUC va attendre, comme vous le dites, que les autorités congolaises puissent contacter leurs homologues du Rwanda, ou vous allez aussi au niveau de la MONUC tenter une action envers Kigali?
Non, je ne crois pas que la MONUC aille contacter Kigali directement, formellement, non. C'est pour le gouvernement congolais, je crois.
Voilà. Sur les effets diplomatiques de ce recrutement opéré par Laurent Kunda au Rwanda, nous avons posé cette question au professeur Philippe Bioya, docteur en relations internationales. On l'écoute au micro de Radio Kati.
Bon, nos observateurs sur le plan sécuritaire qu'on ait rapatrié des combattants, ça serait bon signe. Et si ce rapatriement se fait en accord ou en concertation entre les autorités militaires et politiques congolaises et les autorités rwandaises, je crois que c'est encore une fois de plus bon signe. Mais il faudrait souhaiter effectivement que ce genre d'opération se mutue, parce que le vrai problème qui se pose dans cette affaire, c'est le problème de la capacité à la fois du Congo et du Rwanda là de transformer nos sociétés traditionnelles en coopération. Nous n'arrivons pas à réussir jusque-là, parce que si jamais la MONUC ne fait pas en fait ce service et sa médiation, on ne sait pas comment est-ce que nous vivons cette relation. Donc je souhaite que si cela se confirme, que le climat aille à l'apaisement et que ça soit un signe qui pousse de l'amélioration en fait des rapports entre le Rwanda et la RDC.
Oui, Baudouin Amouli, comment vous voyez justement la solution de ce problème sur le plan diplomatique?
Sur le plan diplomatique, la chose que les chefs d'État de la région des Grands Lacs ont voulu adopter, c'est par tous les moyens éviter d'envenimer les relations entre les États et d'essayer par tous les moyens de recourir à des mécanismes de dialogue pour régler les problèmes. Je pense que dans ce cas-ci, le dialogue entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda est obligatoire, il est tout à fait nécessaire. Je comprends que si le gouvernement de la RDC n'a pas encore réagi par le biais du ministre des Affaires étrangères, c'est certainement parce que le ministre était en dehors du pays.
Et le vice-ministre était là.
Bon, l'information doit lui parvenir. Si l'information lui est parvenue, certainement le gouvernement va réagir. Donc, on doit éviter par tous les moyens d'envenimer les rapports entre les États. Les efforts ont été fournis pour arriver à déjà à un état de dialogue qui est assez satisfaisant à l'heure actuelle. On n'est pas encore dans une situation de confiance totale, mais depuis, la RDC demande au Rwanda des signaux positifs, de l'engagement positif, réel, et de confiance avec le pouvoir établi à Kinshasa. Et nous voulons que le Rwanda donne des signaux positifs de cet engagement pour un nouvel ordre dans la région qui doit être bâti autour du pacte qui a été signé. Et donc, il reste à la RDC une grande responsabilité. C'est évident. Rien ne peut remplacer l'armée congolaise. Il faut que l'armée congolaise agisse. Il y a des stratégies qui ont été mises en place. Certainement, parce que ces stratégies sont en cours de désarmement volontaire et de désarmement forcé en cas de besoin.
Merci, Baudouin. On va suivre une autre question qui vient d'un auditeur de Goma au Nord Kivu.
C'est Kambale à Goma au Nord Kivu. Jusqu'à quand parlerons-nous de Laura Kunda et ses exactions? C'est une urgence pour le gouvernement d'affiner pour sauver les vies des Congolais au Nord et au Sud Kivu.
Comment pensez-vous, Baudouin, que le gouvernement peut régler définitivement la question de Laura Kunda?
La stratégie actuelle pour régler ce problème a été assez prudente dans la mesure où Laura Kunda opère à quelques kilomètres de la République du Rwanda.
Là, vous parlez du message aussi.
Oui, tout à fait. En réalité, Laurent Kunda a fait des essais d'actes de violence juste avant les élections, vous rappelez, des attaques sur Sake, sur Goma. Ces actions ont été mises en échec. Et nous avons vu assez clairement les dangers que cela représentait, c'est-à-dire 300 000 habitants de Goma qui risquaient d'être déversés sur le Rwanda. Nous avons vu déjà sur Rutshuru comment la population de Rutshuru s'est déversée à la fois sur le Rwanda et l'Ouganda.
Là, je signale que selon Ocha, d'ici là, c'est 500 000.
Oui, nous devons donc faire très attention. Jusque-là, le gouvernement a eu des actions, a eu une démarche prudente du dialogue. Mais en effet, face au recrutement de gens, il faut bien qu'on améliore la stratégie.
Oui, alors comment, Jacques Ebenga, pour vous, colonel à la retraite, comment régler définitivement la question de Laurent Kunda?
La question de Laurent Kunda est une question militaire et politique. Et je penserais qu'une instance comme la table ronde qu'on voudrait bien appeler pourrait se pencher sur cette question. Parce qu'apparemment, il n'y a pas une détermination à régler ce problème de manière militaire.
De quel côté?
Du côté du gouvernement. Côté du gouvernement. Peut-être que les moyens aussi pourraient faire défaut, mais en tout cas, je crois que M. Hamoun vient donner une explication. C'est la crainte de voir une masse de gens se déverser sur les pays voisins à partir d'une éventuelle agression que M. Kunda pourrait faire sur une grande ville comme Goma. Donc il y a là certainement une certaine prudence à prendre. Mais je dirais que je suis un peu quand même aussi une fois de plus étonné de voir que le gouvernement ne réagit pas ou réagit très tardivement. Monsieur le directeur de DDRR ici vient nous dire que la MONUC ne peut pas communiquer avec le Rwanda, mais peut-être par le Conseil de sécurité ça pourra se faire. Mais il ne faut pas que nous, gouvernement congolais, nous attendions que le Conseil de sécurité prenne en main un problème qui est le nôtre.
Merci beaucoup, docteur Jacques Ebenga. On va suivre d'autres opinions des auditeurs avec Kéline Côté.
Jean Letou Mungwana à Goma, dans le Nord Kivu, pose la question suivante. Quelle est la sanction que la MONUC prévoit pour les recrutements que Kunda fait? Franklin Kadoulou de Kukwit dans le Bandundu affirme que le problème dans le Kivu est connu de tous. Pourquoi le gouvernement ne prend-il pas son courage pour le résoudre? Attend-il à notre bain de sang avant de s'impliquer? Pour moi, j'ai des mythes à Bukavu dans le Sud-Kivu. Si Kunda est à l'Est, c'est parce qu'il veut créer un État à l'Est sous protection du Rwanda. Mais si la MONUC fait pression sur le Rwanda, la paix reviendra à l'Est. Pensil de Guémena, l'Équateur, veut savoir si la MONUC est en possession des accords signés entre Kunda et les représentants du gouvernement et quelle est la position de la MONUC à ce sujet.
Et on termine avec l'auditeur de Mbujimad.
Oui, M. Kalala dit ceci, ce rapatriement de Rwandais dénote un manque de sérieux de la part du gouvernement congolais.
Alors, Peter Fabrec, vous êtes chef de la division DD3R de la MONUC. On a suivi une des questions posées par des auditeurs. Quelle est la sanction de la MONUC sur ce fait que vous avez constaté votre division?
Oui, avant de parler de sanctions, je crois qu'il est important, il est essentiel tout d'abord d'établir les faits. Ce que nous avons comme fait, c'est les témoignages, les dires de ces combattants que nous avons rapatriés. Peut-être ça ne constitue pas la preuve définitive. Donc c'est pour ça que je dis, je présume que, comme tout autre État, le gouvernement rwandais aura intérêt à lui-même enquêter sur ces allégations. Et que c'est certainement le droit du gouvernement congolais de demander, et peut-être tous les autres États qui ont signé cet acte de bon voisinage, parce que c'est quelque chose qui implique toute la région des Grands Lacs, s'il s'agit d'un recrutement dans un pays de ses citoyens pour participer à un conflit dans un autre pays. Donc c'est quelque chose qui doit être réglé par les États membres concernés, par les bons voisins. Donc c'est quelque chose que je m'attends à ce que le gouvernement congolais soulève auprès du gouvernement rwandais pour en insistant que c'est dans l'intérêt de tout
le pays de la région
concerné que ça soit fait.
Voilà, Baudouin Amouli, vous avez une réaction, un avis à mettre après toutes ces opinions des auditeurs que vous avez suivies.
Bon, je crois que il ne faut pas toujours charger le gouvernement. Nous sommes dans une région assez fragile et il faut mettre ce qui se passe là-bas comme des actions sur lesquelles il faut encore se mobiliser davantage.
C'est-à-dire
hier, nous nous sommes mobilisés sur la question de la gouvernance, de redresser la gouvernance dans notre pays. Et les efforts ont été mis pour arriver jusqu'aux élections. Maintenant, je crois, les problèmes résiduels qui restent dans l'ensemble du processus de paix au Congo, c'est à l'Est. Et je crois qu'il est important que nous puissions mobiliser l'ensemble des acteurs qui nous ont aidés dans tout ce processus, de nous concentrer tous sur le problème de l'Est.
Est-ce que là, le gouvernement a quand même sa part? Est-ce que le gouvernement ne devrait pas commencer et puis les autres sont là pour l'aider? Parce que vous voulez qu'il aide le pays jusqu'où?
Le gouvernement a la responsabilité, c'est vrai. Il a la responsabilité de faire le premier pas, c'est évident.
Mais
il doit y être fait, ne vous en faites pas. C'est sûr qu'elle est en préparation, ça c'est sûr. Tout à fait certain. Je vous ai dit que le ministre des Affaires étrangères était en dehors du pays. Et c'est un gouvernement qui apprend à fonctionner par rapport à ces problèmes qui sont à l'Est. Donc, c'est vrai, on va lui demander d'aller plus vite. On va lui demander. Nous mettrons ces informations à sa disposition assez rapidement. Mais, comme je dis, Les efforts doivent être concentrés dans cette région maintenant, tous ensemble, de manière à terminer ce problème. Et un dialogue doit être maintenu, soutenu avec le Rwanda.
Merci, Baudouin Amouli. En 10 secondes, Jacques Ebenga, sur les opinions des auditeurs.
Oui, les dispositions du pacte disent que si un État membre ne se conforme pas aux dispositions de ce texte, un sommet extraordinaire sera convoqué en vue d'examiner les mesures appropriées à prendre. Je crois que c'est l'occasion de convoquer un sommet. Si le gouvernement rwandais n'arrivait pas à épouser le point de vue du Congolais sur la question de ces réfugiés armés.
Merci beaucoup, Dr. Jacques Ebenga. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nadine Poulain l'a réalisée. Oui, Alain Ngoy était à la technique. Bonne suite de programme sur la Radio de la Paix, Radio Okapi.